Chapitre 10. Un petit bouquet de violettes blanches. Holmes frappa à la porte de Henry Adams à 17h, comme ils en étaient convenus par un échange de messages le matin. On lui ouvrit sans tarder et il se trouva face au visage sévère d'un vieux majordome. Il connaissait presque tout le personnel domestique d'Adams, même s'il n'était officiellement jamais venu dans cette maison. L'homme ne dit pas un mot. Il ferma la porte derrière le détective, puis prit les devants, le précédant dans l'escalier que Holmes n'avait monté que de nuit lors de son cambriolage. Le majordome, grave et silencieux, n'attendit qu'un regard de son maître installé à son bureau pour refermer derrière Holmes sans même l'annoncer. Adams avait sans doute demandé à son domestique de ne pas lui adresser la parole. Autrement, il y aurait au moins eu un « Suivez-moi, monsieur, s'il vous plaît ». Peu importait. Holmes n'en prit pas ombrage. Il considéra avec intérêt les murs tapissés de livres. C'était un bureau d'érudit, éclairé non seulement par des lampes, mais aussi par de grandes fenêtres à vitres claires et à vitraux. À travers celles qui le permettaient, Holmes vit juste en face la résidence présidentielle. Adams ne se leva pas pour l'accueillir et resta muet, ce qui obligea Holmes à prendre l'initiative de traverser la pièce pour approcher du bureau. Il posa son haut de forme, ses gants et sa canne sur un fauteuil et en prit un autre face à Adams. « Vous me mettez dans une position impossible, monsieur Sherlock Holmes », déclara l'homme chauve d'une voix contenue mais qui cachait mal son agacement. Holmes se contenta de hocher la tête. « Mon énigme était beaucoup trop simple », continua Adams. « Je vous ai donné trop d'indices. »« Pas trop, juste assez. Et certains malgré vous. » Votre message de ce matin disait simplement que vous aviez percé le mystère et que vous aviez vu le monde à travers les yeux d'un affligé. Je suppose que cela signifie que vous avez... Oui, je suis entré dans le monument. Henry Adams baissa les yeux sur ses papiers. En cet instant, son visage et même son cuir chevelu presque entièrement dégarni devinrent si pâles que Holmes eut peur de voir son interlocuteur succomber à une crise cardiaque ou à une attaque. Mais Adams releva la tête et redressa le dos. « Eh bien, voilà, » dit-il avec un tremblement à peine perceptible dans la voix. « Vous connaissez mon grand secret à présent, monsieur Holmes. J'ai été assez fou, assez présomptueux pour donner à un homme tel que vous des indices trop évidents. Et maintenant, vous savez. »
Adams eut un sursaut comme s'il venait de recevoir une décharge électrique. « Vous n'avez rien révélé à James, j'espère. »
« Je n'ai parlé ni à Henry James, ni à personne d'autre de tout cela hier soir, ni ce matin, » assura Holmes, jouant sur les mots avec une habileté qui l'écœura lui-même.
« Eh bien, alors, je m'estime heureux. »
L'historien soupira et croisa les mains devant lui.
« Et maintenant, que comptez-vous faire, monsieur Holmes ? Quelle somme allez-vous me réclamer pour garder le silence ? »
Holmes aurait pu feindre l'indignation. Il fut d'ailleurs tenté de le faire, mais il s'en abstint.
« J'accepte uniquement de vendre mes services d'enquêteur, monsieur Adams. Je ne suis pas un maître chanteur. »
« Eh bien, quel est le montant de vos services d'enquêteur dans ce cas ? »
« 1 dollar. Somme qui m'a déjà été réglée il y a 2 ans par le regretté frère de votre femme, Edward. »
« Ned, » murmura Adams d'un ton peiné.
Holmes hocha de nouveau la tête. Soudain, Adams sembla sortir d'un brouillard et revenir à la réalité.
« Je vous présente mes excuses, » lâcha-t-il,
en se soulevant de son siège pour tirer sur le cordon en velours de la sonnette.
« Je ne vous ai rien proposé à boire. Voulez-vous du thé, du café, ou plutôt du whisky ?»«
Rien, merci. »
Adams retomba dans son fauteuil.
« Vous êtes le seul homme au monde à savoir quel monstre je suis. »
« Un homme malheureux n'est pas un monstre, en aucune façon. » « Vous êtes un homme qui a vraiment aimé et qui a cherché à voir les autres contempler son amour perdu. »
Adams esquissa un sourire.
« Ainsi vous entendiez les commentaires grotesques des gens devant la sculpture de Saint-Gaudens. Ils se demandent combien le monument a coûté. Ils critiquent son style solennel. » L'absence d'inspiration religieuse, le manque de joie, d'espoir, de croyance en la vie éternelle et en la rédemption. L'espèce humaine est étrange, monsieur Holmes.
C'est vrai.
Que voulez-vous de moi ?
Je tiens à... J'ai
besoin de découvrir la vérité sur la mort de votre épouse.
Elle a avalé du cyanure de potassium et la mort a été quasi instantanée, dit Adams d'un ton détaché.
Il n'y a rien d'autre à savoir, rien à découvrir.
Holmes soupira et se pencha en avant, croisant lui aussi les mains sur le bureau.
Je vous prie de pardonner ma brutalité, présentée à venir, mais ce n'est pas par cruauté que je m'entête et que je vous pose ces questions.
Tout ne me semble pas clair. Adams s'était reculé et, du fond de son fauteuil, rencontra fermement le regard vif de Holmes.
La mort de votre épouse ne peut pas avoir été aussi rapide que vous le dites, poursuivit Holmes avec douceur mais assurance.
J'ai publié des monographies sur plus de 300 substances toxiques et leurs associations. J'ai étudié leurs symptômes, leur dangerosité sur une échelle de 1 à 100, leur odeur, leur efficacité.
Le cyanure de potassium pris à dose mortelle devrait avoir brûlé la langue et la gorge de Madame Adams.
Et puis ce poison ôte au corps sa capacité à assimiler l'oxygène, ce qui revient à dire qu'il asphyxie ses victimes.
Donc, Madame Adams devrait avoir eu la sensation d'étouffer, elle aurait dû tousser, même arracher son col pour trouver de l'air.
Elle aurait dû se débattre et s'écrouler sur le sol, où le poison n'aurait pu que lui donner des convulsions violentes pendant plusieurs minutes, et puis
« Assez !» s'écria Henry Adams en abattant sa paume sur le bureau. Le coup claqua comme une détonation. La porte s'ouvrit presque instantanément et le majordome passa la tête dans la pièce.
« Monsieur, tout va bien ?»«
J'ai entendu du bruit !» Adams releva la tête et lança d'une voix vibrante « Tout va bien, Hobson !»« Vous pouvez cesser votre vigile !»
« Bien, monsieur. »
La porte se referma en silence et Holmes entendit résonner les pas qu'il avait guettés en vain au début de sa visite, ceux du majordome qui s'éloignait dans le couloir et redescendait. Il tourna de nouveau son attention sur Adams et sentit son animosité. Si les regards pouvaient tuer, Holmes aurait été massacré.
« Pourquoi me dites-vous tout cela ?»
gronda Adams. Holmes désigna la bibliothèque et ses centaines d'ouvrages reliés.
Les poisons et leurs effets de Sedford, 9e édition. Vous connaissez tout cela aussi bien que moi. Vous avez mené sur les poisons des recherches aussi minutieuses que sur l'histoire des présidences de Thomas Jefferson. Vous vouliez la vérité même si elle était dure. Je suis comme vous.
C'est bon, vous avez raison,
reconnut l'historien en faisant visiblement appel à tout son courage.
La pièce où j'ai trouvé le corps de Clover était saccagée comme après une bagarre de soudards. Rideaux arrachés, tables renversées, lampes brisées, coussins lacérés à coups d'ongles, bibelots de cristal balayés du manteau de la cheminée et fracassés. Et le visage de Clover, monstrueux, figé par la terreur, déformé.
Holmes hocha la tête. Après avoir respecté un temps de silence, il déclara «
Vous avez menti à la police et aux journalistes. »
Adams se renversa en arrière et les rayons pâlissants du soleil se reflétèrent sur son crâne chauve. Une seconde, son visage rappela à Holmes les masques de démons qu'il avait vus lors d'une représentation de théâtre non à Kyoto. Voyant que l'historien ne répondait pas et que sa main droite crispée était retombée juste au-dessus du tiroir, Holmes se demanda si un pistolet s'y trouvait. De son côté, son nouveau presse-citron, chargé, était glissé dans la poche avant droite de sa veste en tweed.
Vous avez dit à la police et aux journalistes que vous aviez laissé votre femme seule ce dimanche matin pour aller chez le dentiste, reprit Holmes. Ce n'était pas vrai.
Le corps frêle d'Adams se balança d'avant en arrière comme s'il était physiquement bousculé par la tempête morale qui l'agitait. Au bout d'un long moment, il répondit :
En effet. Ce n'était pas vrai. Pourquoi êtes-vous sorti ce matin-là?
Clover et moi, nous venions de nous disputer.
Violemment.
Comme s'il comprenait la gravité de ce mot et le mauvais effet qu'il ferait à un jury, il ajouta très vite.
Pour Clover et moi, du moins, la dispute était forte, mais nous avons à peine haussé le ton. Nous n'étions pas de ces couples qui crient. Jamais nous n'élevions la voix.
« Mais vous avez eu des mots. »«
Oui. »«
À quel sujet ?»«
Clover traversait une très mauvaise passe. »«
Ce matin-là, elle était en larmes, dans un état vraiment épouvantable, parce que le dimanche à 7 heures, elle avait eu l'habitude d'écrire à son père. Son père mort depuis des mois.
Votre dispute portait sur ses émotions ou sur son activité épistolaire?
Je lui ai demandé d'occuper ses dimanches autrement qu'à pleurer, d'écrire à sa sœur Hélène, d'en faire des journées productives et non minées par la mélancolie. Il était temps de tourner la page.
Cette lettre à sa sœur, elle l'a écrite après votre départ, tout du moins en partie, commenta Holmes. Je pense la citer exactement. Henry a été plus patient et aimant que je ne puis l'exprimer. Et, dans le dernier paragraphe inachevé, Henry a été, et continue d'être, au-delà de toute expression, encore plus tendre et meilleur que vous tous même.
Pourquoi pensez-vous qu'elle ait écrit ces mots juste après une dispute qui vous a poussé à sortir de chez vous fâché?
Adams ressemblait à un écrivain qu'on forcerait à jeter au feu, page après page, l'œuvre de sa vie.
Je ne sais pas. Pas plus que je ne m'explique comment vous avez eu connaissance de cette lettre.
La police en a pris copie, expliqua Holmes en balayant ce détail d'un geste. On pourrait croire, continua-t-il, que cette missive est une forme de lettre d'adieu à sa sœur, écrite pour s'assurer que personne ne puisse vous reprocher son suicide. Adams secoua la tête, soit pour nier, soit sous l'effet de l'incompréhension. Holmes ne sut trancher.
Dans la lettre à sa sœur, reprit Holmes, Madame Adams a aussi écrit, je vous restitue cela encore de mémoire, si j'avais la moindre force, la moindre qualité, je pourrais m'y appuyer pour retrouver goût à la vie. Et là se termine sa lettre.
Pourquoi avez-vous fait demi-tour et êtes-vous rentré chez vous si vite? Vous n'étiez parti que depuis 10 minutes. Je sais par ailleurs que vous n'aviez pas rendez-vous chez le dentiste.
Adams prit son stylo à encre sur le bureau et le tint entre ses mains comme s'il voulait le briser en deux.
« J'étais inquiet, » finit-il par expliquer. « Je me faisais des reproches. Je savais que c'était très égoïste de laisser Clover seule à la maison un matin où elle souffrait autant.
Vous avez dit à la police qu'en rentrant chez vous au 607 H Street, vous n'étiez pas loin, vous aviez trouvé Mademoiselle Rebecca Lorne dehors devant la porte. » Vous avez dit qu'elle se demandait si elle serait bien accueillie par Clover si elle montait la voir.
Adams ne dit rien. Son regard, d'une intelligence presque effrayante, d'ordinaire, semblait brumeux. Terni par le voile translucide du souvenir, songea Holmes.
Pourquoi avez-vous menti sur cette rencontre?
Adams sembla stupéfait.
Qui a dit que j'avais menti?
Moi, je le dis. Vous avez vu Rebecca Lorne sortir de chez vous.
Elle sanglotait, aussi désespérée que Madame Adams l'avait été un peu plus tôt. Elle avait du mal à parler et ne savait comment vous dire ce qu'elle avait vu en montant voir votre femme.
C'est bien cela?
Oui, c'est vrai.
J'ai dû la faire rentrer dans le hall pour l'empêcher de se donner en spectacle dans la rue.
Il m'a fallu 1 ou 2 minutes pour la calmer suffisamment et lui faire dire ce qui se passait.
« Comment était-elle entrée ?» demanda Holmes avec un vif intérêt.
« Pardon ? » ?»«
J'imagine que vous aviez fermé à clé en sortant prendre l'air pour vous calmer. Comment Rebecca Lorne est-elle entrée chez vous ?»«
Clover avait fait faire un double de la clé pour Rebecca 1 ou 2 mois plus tôt. Nous comptions aller séjourner à New York à un projet qui ne s'est pas réalisé. » Et Clover avait donné la clé à Mademoiselle Lorne pour qu'elle puisse passer voir comment s'en sortaient les domestiques et s'assurer que les plantes étaient suffisamment arrosées.
C'est donc Rebecca Lorne qui a découvert le corps de Madame Adams dans le salon dévasté, et non pas vous, conclut Holmes.
Adams hocha à peine la tête. Après un silence, Adams prit la parole d'une voix sans timbre, celle d'un homme qu'on obligerait à retourner en enfer.
Ces derniers mois, seule Rebecca Lorne parvenait à distraire Clover du chagrin de la mort de son père. Mon épouse avait cessé de voir la plupart de ses amis. Ce serait aller trop loin de dire qu'elles étaient devenues inséparables en cette fin d'été et ce début d'automne, mais Clover n'était jamais aussi heureuse que lorsqu'elle allait voir Mademoiselle Lorne.
N'avait-elle pas rendu visite ensemble à Madame Cameron, Lizzie Cameron, la veille au soir, sans qui Holmes?
Adams eut de nouveau l'air surpris.
« Oui,
C'est exact. Lydie avait été très malade. Elle avait eu la grippe, je crois. Clover est passée la voir en compagnie de Mademoiselle Lorne. Elle lui a apporté des fleurs et un livre.
Holmes brandit la photographie d'artiste d'Irene Adler de sa poche intérieure et la tendit à Henry Adams.
Est-ce bien une photo de Rebecca Lorne?
Adams approcha la photo de ses yeux, puis l'éloigna pour trouver la bonne distance.
Eh bien, oui, cela lui ressemble.
Sa tenue est un peu plus voyante, si je puis dire. Et elle a quelques années de moins, mais c'est bien Rebecca.
Holmes rempocha la photo.
Vous venez de voir l'annonce publicitaire du spectacle d'une certaine Irene Adler, née américaine mais formée en Europe.
Formée à quoi?
Au chant lyrique, à la scène, au chantage.
Surtout à ce dernier art.
Je ne peux pas le croire.
Vous souvenez-vous de son cousin, un certain Clifton Richards?
Oui, bien sûr.
Un jeune homme lui aussi féru de photographie. Adam s'interrompit et son regard redevint brumeux.
C'est lui qui a fourni à Clover le nouveau produit de développement photographique qui contenait le cyanure de potassium.
Son vrai nom est Lucan. Probablement Lucan Adler. Et il est sans doute le fils d'Irene Adler.
Adam secoua la tête pour montrer son ignorance.
Vous n'avez pas vu ce Lucan, le cousin Clifton, le jour où Rebecca Lorne est sortie de chez vous juste après la mort de Clover?
Non.
Mais il aurait pu être dans la maison et descendre par l'escalier de service pendant que vous montiez en toute hâte l'escalier principal, puis sortir par derrière.
Vous divaguez. C'est ridicule.
Nous n'avons aucune preuve que son cousin Clifton était avec elle chez moi ce jour funeste.
Non, mais nous savons sans le moindre doute que Clifton Richards était Adler, un tueur à gages.
Et à moins d'interroger Irene Adler, que vous connaissez sous le nom de Rebecca Lorne, nous ne saurons jamais ce qui s'est vraiment passé ce jour-là.
Or, j'ai vu l'annonce de la mort d'Irene Adler dans le Times en mars 1886.
Adams eut un geste impatient pour rejeter les allégations de Holmes et toutes leurs implications.
Non, cette Irene Adler ne peut pas être la femme que j'ai si bien connue la dernière année de la vie de Clover.
J'écris de temps en temps à Mademoiselle Lorne, qui est depuis devenue Madame Baxter à Boston.
Et elle a toujours répondu.
Récemment ? S'exclama Holmes, dressant l'oreille comme un chien de chasse.
La dernière lettre que j'ai reçue d'elle remonte à l'automne dernier, je crois.
Ainsi, vous voyez que cette comédienne dont on a annoncé la mort ne peut pas être Madame Rebecca Lorne Baxter de Boston.
Et vous avez reconnu son écriture?
Mais bien entendu.
Madame Baxter ne m'a jamais envoyé une seule lettre tapée à la machine, contrairement à ces maudits messages qui vous poussent à me harceler avec cette enquête maladroite et indiscrète.
Quand Mademoiselle Lorne s'est-elle mariée?
Environ 2 ans après la disparition de ma femme.
Mademoiselle Lorne est allée vivre à Boston en janvier 1886, un mois seulement après.
Elle m'a annoncé son mariage en août 1888.
Je sais seulement que son mari est un peu plus âgé qu'elle et qu'il fait commerce avec l'Inde.
Puis-je voir votre correspondance avec elle?
La partie qui la concerne, bien sûr, pas la vôtre.
Holmes s'était attendu à devoir argumenter, à batailler, mais Adams ne sembla y voir aucun inconvénient.
Il sortit un petit paquet d'enveloppes entourées d'un ruban rose du tiroir principal de son bureau.
Lisez-les, monsieur Holmes. Vous pouvez les prendre, à condition de promettre de me les rendre.
Vous ne trouverez rien que de très ordinaire dans ce que m'a écrit Rebecca Lorne Baxter. Et rien non plus dans mes brèves réponses, d'ailleurs, au cas où cette dame vous autoriserait à les lire un jour. Ce sont de simples échanges entre un veuf vieillissant et une amie de sa femme, une amie qui la pleure encore après 7 ans.
Adams parlait sans émotion, d'un ton presque automatique.
Holmes prit les lettres en silence.
Autre chose, un autre mystère puisque vous les aimez tant, monsieur Holmes, dit Adams.
Holmes posa les lettres sur ses genoux et attendit.
Tous les ans, le jour de l'anniversaire de la mort de Clover, je trouve un petit bouquet de violettes blanches, sa fleur préférée, sur sa tombe, au cimetière de Rock Creek. Quand j'étais en voyage, c'est Hay ou un autre de nos amis qui l'a vu.
Je suis persuadé que Rebecca Lorne est la personne mystérieuse qui apporte ses fleurs le 6 décembre.
Qu'est-ce qui vous fait penser cela?
Lui en avez-vous parlé?
Non, jamais.
Mais je n'en aurais eu que rarement l'occasion.
Je le sais, c'est tout.
Je ne lui ai pas encore écrit pour la remercier, mais j'ai l'intention de le faire.
Cependant, vous venez de m'apprendre que Mademoiselle Lorne, Madame Baxter, puisqu'elle s'est mariée, vivait à Boston depuis plusieurs années.
Oui, à Boston.
Monsieur Adams,
croyez-vous vraiment que Rebecca Lorne Baxter viendrait jusqu'à Washington tous les 6 décembre sans jamais vous contacter, uniquement pour déposer un bouquet de violettes blanches sur la tombe de votre épouse?
Oui, certainement.
Elle ne l'a jamais mentionné dans ses lettres, mais j'ai la certitude que ce geste si charmant vient d'elle.
C'est bien dans le caractère de la femme que j'ai connue en 1885.
Rebecca Lorne est une bonne personne. C'était une grande amie de Clover, et vos accusations sont plus que graves.
Elles sont indignes de votre profession. C'est de la diffamation pure et simple.
Eh bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur,
dit Holmes en se levant. Il récupéra son chapeau, ses gants et sa canne. Adams resta assis.
Comptez-vous quitter Washington bientôt? Demanda l'historien.
J'ai quelques déplacements à effectuer dans le cadre de cette enquête, et d'une autre que je mène aussi, mais on peut me joindre par l'intermédiaire du marchand de cigares à tout moment.
Je n'ai aucune intention de poursuivre nos relations. Je vous serai reconnaissant de me restituer les lettres avant votre départ de Washington. Vous les laisserez à Hobson quand il vous conviendra. Nous n'avons aucune raison de nous revoir ni de communiquer.
Holmes branla du chef.
Ne me raccompagnez pas, monsieur Adams. Je vous remercie de m'avoir consacré un peu de votre temps et apporté une aide précieuse,
acheva-t-il en tapotant la poche où il avait glissé les lettres. Mais Henry Adams, de nouveau penché sur ses papiers, ne le regardait plus.
Holmes s'arrêta sur le seuil du bureau, devinant la présence de Hobson non loin dans le couloir.
Une dernière question, monsieur Adams.
Adams dressa la tête sans un froncement de sourcils, sans le moindre signe d'impatience, ce qui fit admirer une fois de plus à Holmes son impeccable self-control.
Les fenêtres de cette pièce, celles qui n'ont pas de vitraux, offrent une vue parfaite sur la résidence du président. Particulièrement celle-ci.
Adams ne commenta pas.
Il ne tourna même pas les yeux pour constater l'évidence. Il travaillait dans ce bureau avec cette vue depuis 1886.
La question vous paraîtra peut-être étrange, cher monsieur, mais savez-vous sur quelle pièce de la Maison Blanche donne précisément cette fenêtre? Et si le président Cleveland les fréquente souvent?
Je peux simplement vous répondre qu'à l'époque où Madame Adams et moi-même avons été invités à la résidence du président lors de son premier mandat, il s'agissait du bureau et du salon officiel de sa sœur, Mademoiselle Rose Elizabeth Cleveland, qui a tenu le rôle de première dame jusqu'au mariage de Monsieur Cleveland en 1886. Un mariage célébré à la Maison Blanche, ce qui, je pense, était une grande première. Quand Monsieur Cleveland, après avoir été élu pour la deuxième fois, a réintégré la résidence le mois dernier, j'ai entendu dire que sa sœur n'était pas revenue à Washington avec lui. Elle est devenue directrice d'un petit établissement d'éducation supérieure dans l'Indiana, à Lafayette, pour être précis. Elle a aussi publié un certain nombre d'écrits sur ce qu'on appelle de nos jours les questions féministes, c'est-à-dire les droits des femmes. J'ai lu quelque part qu'elle avait participé récemment au premier congrès international des femmes à Paris. À part ça, non, je ne sais pas ce qui se passe derrière ces fenêtres aujourd'hui. La seule certitude, c'est que la sœur du président ne s'y trouve plus.
Holmes sourit, amusé par l'exhaustivité de la réponse, complète à défaut d'être aimable, et par l'absence de surprise de son hôte devant l'absurdité de la question. Il remercia Adams et referma la porte derrière lui.
Tout en se dépêchant de remonter dans la voiture qui l'attendait, voulant partir avant que Henry James ne ressorte de sa visite dans la maison d'à côté, Holmes songea qu'il avait glané de cet entretien au moins une information intéressante. Le bureau de Henry Adams était situé à un emplacement idéal pour un tueur tel que Lucas Nadler, armé d'un fusil.